Voilà, en effet, s'il y a des enfants, ils peuvent rejoindre la classe unique. Je voudrais lire avec vous ce matin trois récits de guérison. Le premier, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, au début de ce chapitre. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi avaient ces gens, quelle foi ils avaient en lui, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques interprètes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Qu'est-il plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche ? » Eh bien, vous allez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et il s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent grâce à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Notre deuxième récit se lit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5. Là encore au début de ce chapitre. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui y entrait après le bouillonnement de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?»« Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ton grabat et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton grabat. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton grabat et marche. Et qui t'a dit cela? lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait que c'était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Quelque temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà bien portant, » lui dit-il, « mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Troisième récit, dans le livre des Actes, au chapitre 3, à partir du verset 1. Un jour, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, il marchait, il bondissait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi, marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait pas Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Trois récits, trois guérisons. Trois malheureux atteints par le handicap, par la maladie. Le premier, un homme paralysé, couché sur son grabat, totalement dépendant des autres. Il est dans la position de sa maladie, de sa paralysie. Il est horizontal, il n'est pas debout, il est couché sur son grabat. Heureusement, il a des amis pour le porter. Mais il n'a personne pour le redresser. Des amis pour l'aider, mais personne pour le guérir. C'est important d'avoir des amis, et des amis capables de le porter, mais personne pour le guérir. Et voici Jésus. On amène vers lui ce paralytique. C'est la rencontre. La rencontre cruciale, la rencontre vitale pour cet homme paralysé. Jésus voit la foi de cet homme et de ceux qui l'ont amené à Jésus. Et la parole de Jésus, la première délivrance que Jésus accorde à cet homme, c'est celle de ses péchés. Il lui accorde le pardon des péchés en voyant leur foi. C'est la première action et c'est celle qui apporte le salut à cet homme. Et cette action interpelle les chefs des Juifs qui se demandent si Jésus ne vient pas de prononcer un blasphème puisque seul Dieu a le pouvoir de guérir et que Jésus, en disant cela, se fait l'égal de Dieu. Et Jésus leur répond très simplement, qu'est-il plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». Quelle est la chose la plus importante ? Il y a celle qui frappe les yeux. Il y a celle pour laquelle les amis ont amené le paralytique, bien sûr, pour obtenir le bienfait tout naturellement souhaité de la délivrance de sa paralysie. Mais Jésus est venu pour faire plus que la guérison physique. C'est pourquoi il a commencé par le pardon des péchés. Mais devant cette situation, et je pense aussi dans le désir de Jésus de faire le bien total qu'il avait prévu de faire à cet homme, il le guérit. Il le guérit pour son bien, bien sûr. Et il le guérit aussi pour que cette guérison rende témoignage au fait qu'il est le Fils de Dieu, rende témoignage au fait qu'il est venu pour apporter le salut à tous ceux qui croient. Lève-toi et marche. Et voici l'homme debout, rendu à sa stature normale, à sa position initiale, à sa place parmi les bien portants, tant il est vrai que cette verticalité, cette position debout, manifeste sa présence parmi les vivants, dans son autonomie, dans son relationnel, dans son individualité, dans sa capacité de faire tout ce que peut faire un être humain en bonne santé. Première guérison. La deuxième. L'homme est couché au milieu de ses compagnons d'infortune. Cet ensemble de personnes malades, paralysées, aveugles, un ensemble de personnes atteintes dans leur corps par toutes ces misères et toute cette pauvreté et cette difficulté et cette situation si terrible, si douloureuse et si partagée dans ce groupe de gens qui attendaient la guérison. Et cet homme est là, malade depuis 38 ans. Quelle misère, partagée avec beaucoup d'autres. Quelle misère depuis si longtemps, toute une vie d'homme écrasée. Il est au milieu des autres malheureux comme lui, des autres handicapés. Mais en fait, il est seul. Il le dit à Jésus. Il n'a personne pour le jeter dans l'eau lorsque l'eau bouillonne et qu'elle permet au premier qui arrive à sauter dans l'eau d'être guéri. Et voici Jésus qui vient. Jésus qui vient vers lui. Et pour lui aussi, c'est la rencontre décisive. Veux-tu être guéri ? Un appel à cet homme-là, celui que Jésus a vu, celui qu'il désigne, et avec lequel il veut établir une relation personnelle. Et la réponse, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau bouillonne, et tandis que je me traîne pour essayer d'y aller, un autre y arrive avant moi, et il est guéri, et moi, je ne suis pas guéri. Seigneur, je n'ai personne, dit cet homme à Jésus. Et Jésus est là, avec lui et pour lui. Et soudain, il a Jésus. Et Jésus le prend par la main droite. Lève-toi et marche. Et voici l'homme debout, rendu au mouvement, à l'activité, au travail. Prends ton grabat et rentre chez toi. Ce grabat que Jésus l'invite à emporter exprime sa force retrouvée, sa possibilité d'agir, de faire. Vous vous rendez compte, 38 ans qu'il était paralysé, qu'il était ainsi, sans pouvoir rien faire. Maintenant, il peut non seulement se lever et marcher, mais emporter son lit, son grabat. Il peut être à nouveau parmi les vivants, debout et agissant. Et voici encore des gens qui veulent contester à celui qui vient de recevoir la guérison, qui viennent contester à cet homme le droit d'emporter son grabat. Le droit d'emporter son grabat à celui qui vient d'être guéri après 38 ans de paralysie. Quelle disproportion. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit d'emporter ton grabat. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton grabat et va dans ta maison. Que vaut votre parole en face de celle de l'homme qui m'a guéri? Lève-toi, prends ton lit et marche, va dans ta maison. Il avait fait cela le jour du sabbat. Il y aura de nombreux débats que Jésus aura avec ces gens qui voulaient empêcher de faire du bien le jour du sabbat. Cet homme est libéré, à la fois de sa maladie et libéré de cette prescription absurde qu'on a voulu lui imposer dans quelque chose de totalement disproportionné par rapport au fait qu'il venait de retrouver la possibilité d'être debout, de marcher et d'emporter son lit. La vie, la délivrance, la guérison. Cet homme a trouvé sa liberté en Jésus et avec lui. Troisième guérison. Alors lui, l'homme qui est devant la belle porte du temple, c'est plus que 38 ans, c'est depuis sa naissance qu'il est boiteux, et chaque jour on le transporte, on le place à la porte du temple pour qu'il puisse demander l'aumône. Il est là, recroquevillé, limité, diminué, réduit au regard, à la parole et au geste de la main pour mendier. Et là, ce sont les deux disciples qui sont devant lui, deux disciples de Jésus. Il les voit entrer et il leur demande l'aumône. Et eux s'arrêtent et le regardent. Et dans leur regard, il y a, comme pour Jésus, à l'égard de celui qui est dans la piscine de Bethesda, cette rencontre unique. Au nom de Jésus de Nazareth, ces deux sont pour cet homme les témoins de Jésus. C'est comme si Jésus était là. Il commence par lui dire argent ou or, non, nous n'en avons pas. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voici cet homme debout. Et non seulement debout, d'un saut. Il est non seulement rendu à la verticalité, à la possibilité d'aller et de venir, de marcher, mais même de sauter et de sauter de joie. Autrement dit, il est rendu non seulement à la vie, mais à la louange, à une vie épanouie, à une grande allégresse. Il est rendu à la joie, cet homme-là. Il marche, il saute, même dans le temple. Et il rentre dans le temple, pas de façon compassée et solennelle, mais il rentre en bondissant de joie, parce que c'est la joie qui l'habite, ayant été guéri et ramené à la vie. Le voilà debout. Lui aussi a entendu cette parole, « Lève-toi et marche !» Et le voici, cette fois dans le temple, pour chanter et louer Dieu. Tant il est vrai que ce premier élan de cet homme qui qui a été relevé, qui a été guéri, qui retrouve la verticalité et le mouvement, est reconnaissant, infiniment reconnaissant, et exprime de cette façon sa louange et sa joie. Il a retrouvé la destinée de l'être humain, qui est de glorifier Dieu. Trois guérisons. Lève-toi et marche. Je voudrais faire de cette parole ce matin la parole symbolique de toute l'action de Jésus pour redonner vie aux humains qu'il est venu sauver. Parole de Jésus à des hommes blessés par la vie. Parole de Jésus à des handicapés, à des paralysés, à des hommes qui étaient couchés ou assis dans leur misère. Parole qui guérit, parole qui relève, parole de vie, parole de résurrection, parole de renaissance, parole de recommencement. Lève-toi et marche. C'est pour cela que Jésus est venu. Je voudrais, pendant quelques instants encore, méditer cette belle parole, le sens profond de cette parole que Jésus dit à tout être humain. Lève-toi et marche. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison morale. Ces hommes qui ont regardé et qui ont saisi la présence de Jésus, qui ont cru en lui, ont reçu de lui la parole de vie. Lève-toi et marche. Le souffle de vie, ce souffle qui amène l'homme à être ce qu'il était à l'origine, une créature debout, en communion avec son Créateur. Adam et Ève marchant dans le jardin et dialoguant avec Dieu. Et dans un sens symbolique, on peut dire que au moment où l'homme désobéit à Dieu et décide d'écouter le tentateur, moment de cette rupture entre la créature et le Créateur, l'homme a en quelque sorte perdu sa verticalité. Il a perdu sa possibilité d'être debout et de marcher. Au moment de la chute, la mort est entrée dans le monde. Le premier homme et la première femme ont engendré Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Abel est mort. Et le sang d'Abel crie. Abel couché dans la poussière est l'image de l'homme brisé par le péché. Cette réalité historique est en même temps un symbole. Ce qui fait que les paralysés, les boiteux, les malades rencontrés par Jésus sont l'image de l'homme mutilé, blessé, démoli, écrasé, abattu, courbé. Est-ce que le fait de faire ce parallèle vous surprend ? Pensez-vous que l'image est trop forte, que de comparer l'être humain sans Dieu à un être paralysé, mutilé, démoli, brisé, écrasé, courbé. Il y a une image qui est encore plus absolue que celle que j'emploie. C'est celle que l'apôtre Paul emploie pour dire ce que nous étions avant de connaître Jésus. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois en suivant simplement vos désirs, vos penchants, vos sentiments naturels. L'homme est ainsi quelqu'un qui n'est pas dans la position normale de celui qui est debout et qui marche avec Dieu. L'homme redressé, épanoui, rendu au mouvement et à la liberté, c'est celui qui a été rencontré par Jésus et à qui Jésus a dit « Lève-toi et marche ». Je prolonge juste encore quelques instants. Tous ces malheureux que Jésus a rencontrés, qui sont couchés, qui sont au niveau du sol, ont une vision différente de la vision qu'ont les humains debout et en marche. Ceux qui sont debout voient à leur niveau, ils peuvent dialoguer avec les autres. Ceux qui sont couchés, ceux qui sont paralysés ont une vision différente. Il faut qu'on se penche sur eux et eux nous voient d'une façon différente. C'est une vision particulière de ces gens qui sont inférieurs, physiquement parlant, aux autres. Pas humainement parlant, mais physiquement parlant, oui. Ils sont dépendants. Ils ont besoin des autres pour se mouvoir, pour faire des choses. Ils sont limités. Ils sont immobiles par rapport à tous ceux qui vont et qui viennent et qui courent. Ils ne peuvent pas agir comme tous les autres, ils ne peuvent pas travailler comme tous les autres. Ces malheureux sont l'image des êtres humains blessés par le péché, qui ne voient pas les choses dans leur réalité, qui n'ont pas la possibilité d'agir pour le bien, sont selon la vocation humaine telle que le Créateur l'avait voulu. L'homme, au plan moral et au plan spirituel, est un homme blessé, est un homme brisé. Il est debout, il croit être debout, mais dans la réalité, il est dépendant de toutes ces choses qui l'écrasent, qui le dominent et qui le font paraître non pas debout, mais couché. L'homme démoli par le péché est un homme paralysé, c'est un homme qui rampe, qui suit ses pulsions, qui réfléchit dans uniquement ce qui est à sa portée et qui est à sa portée d'homme couché. Se vantant d'être sage, dit le texte des Romains, ils sont devenus fous, ils ont pensé ce qui était bien et en réalité ils se sont tournés vers ce qui n'était pas bien. Et l'homme qui marche sans Dieu est un homme abîmé, qui vit dans son monde, qui vit dans ses habitudes, qui suit ses penchants, qui n'a pas la possibilité de vaincre les atavismes et les forces qui le tirent vers le bas. J'ai parlé de l'image « Vous étiez mort », d'autres images, c'est « Vous étiez esclaves ». Esclaves de vos tendances, de vos mouvements et de vos pulsions. On ne sait plus, quand on est sans Dieu et sans espérance dans le monde, ce qu'est un homme debout et libre. On croit être debout, mais on ne l'est pas moralement parlant. Quand Jésus a dit au chef des Juifs, « Si vous croyez en moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous rendre libres, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jamais. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? Ça, c'est typiquement l'illusion dans laquelle vit l'homme naturel. Il se croit libre, il se croit souverain, il se croit apte à faire ce qu'il veut de sa vie. Il croit être debout, il croit être capable de faire tout ce qui lui plaît. L'apôtre Paul dit ailleurs aussi, oui, nous pensons, même dans de bonnes dispositions, faire le bien, mais en réalité, quand nous agissons, nous faisons le mal. Et Paul le dit alors que la personne dont il parle a commencé à connaître déjà le chemin de la vie. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Lève-toi et marche, dit Jésus. L'appel de Dieu est à la vie. Tout ce que Dieu a fait dans l'histoire pour l'homme n'a pas d'autre but que de le remettre debout dans sa position de relation normale avec les autres et avec Dieu et lui donner la force de marcher dans les chemins de la vie qui sont ceux que le Seigneur est venu nous enseigner. Tous ces paralysés, tous ces malades, tous ces boiteux qui ont été guéris par Jésus, lève-toi et marche, ont été rendus à la verticalité et au mouvement, ont été réinsérés dans la vie, dans la société, et ils témoignent de la puissance, de l'efficacité de l'action de Dieu en faveur des êtres humains. Lève-toi et marche. La verticalité, le mouvement et la liberté, nous l'avons mentionné aussi. Toutes les libertés vraies sont rendues, même par rapport à ce que les religieux de l'époque voulaient imposer à cet homme pour qu'il n'emporte pas son grabat. Là aussi, Jésus a donné la vie pleine et entière dans la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et ces hommes qui ont été guéris par Jésus ont retrouvé la vision vraie des êtres et des choses, leur niveau d'égalité avec les autres, leur personnalité, leur indépendance, leur autonomie, leur mouvement, leur possibilité d'action, leur possibilité de travail, leur possibilité d'aller et d'emporter leur grabat. Lève-toi et marche, dit Dieu à l'homme, toi qui es mutilé, démoli, brisé, écrasé, abattu, courbé. Combien dont le corps est debout, mais dont l'âme se traîne, dont le cœur est lourd. Toi qui te cambres pour montrer aux autres que tu marches droit et que tu n'as besoin de personne pour être debout et pour faire ce que tu veux. Toi qui redresses la tête pour cacher la faiblesse intérieure qui t'habite. Lève-toi et marche. Toi qui marches sur la tête parce que c'est ton corps qui commande, toi qui rampes parce que ta sensibilité t'envahit et te domine, parce que tu ne peux pas résister à tes désirs, toi qui es assis, installé, enfermé dans tes pensées, dans ton système, toi qui as besoin d'être libéré de ta prison, parce que tous tes conditionnements t'ont enfermé. Lève-toi et marche. Dieu l'a dit d'abord à Abraham, qui était dans son pays et dans sa famille, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Lève-toi et marche. Dieu l'a dit au peuple qui était esclave en Égypte, pour qu'il sorte de l'esclavage et qu'il aille dans le pays de Canaan, dans le pays que je te montrerai, là où je te conduirai, là où je te bénirai. Tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu et sont partis à son appel ont connu cette marche vers la terre promise. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lève-toi et marche, dit Jésus. Parole du Dieu vivant qui donne en même temps qu'il prononce cet appel. Lève-toi, il prend par la main et il relève et marche. Et il dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Grandeur de cet appel, toujours vivant, toujours vrai. Mais pour pouvoir le recevoir, il faut reconnaître notre indigence, notre paralysie, notre situation d'esclave ou de paralysé ou d'accablé ou de blessé. Parce qu'il n'y a que les malades qui peuvent être guéris. Il n'y a que les malades qui ont besoin de médecins. Et c'est la condition de reconnaître, qui consiste à reconnaître son état de pécheur, pour pouvoir être pardonné, remis debout et libéré. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre tout à nouveau cette parole de Jésus, lève-toi et marche. Que nous ne soyons pas encore entrés dans le chemin de la foi, notre situation de pécheur et recevoir de lui la vie, ou que, étant enfants de Dieu, nous ayons en ce moment des problèmes ou des accablements qui nous font l'âme courbée et qui nous font marcher dans la peine, dans la difficulté et dans la souffrance. Le Seigneur vient vers nous pour nous dire à nous aussi, nous prendre par la main et nous dire, lève-toi et marche. Je marche avec toi, je te prends par la main. Viens vers moi. Quand Pierre a voulu venir vers Jésus, Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a été capable même de marcher sur l'eau du lac. Lève-toi et marche. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.